France Musique.
Très bon week-end Nicolas Lafitte et à lundi matin.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à vous qui vous levez de bonne heure en ce samedi matin. Et vous avez raison, Fabrication Maison vous réserve bien des plaisirs. D'abord, celui de vous réveiller avec Sir Roger Norrington, qui est à Paris pour diriger l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Puis nous suivrons les producteurs de France Musique, Alex Dutille et Yvan Amar, qui traquent le jazz jusque dans le Bordelais. La chronique de Marie Fauché dressera le portrait de la pianiste Natalia Milstein. Puis nous retrouvons Jean-Yves Pat coiffé d'une chapka, un souvenir musical que vous nous avez envoyé, et nous nous quitterons avec un nouveau choix musical de Sophie Genin. Vous êtes là ? On y va alors.
France Musique.
Roger Norrington, merci d'être avec nous ce matin. Vous allez diriger tout à l'heure à 11h la Symphonie Rhénane avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Un orchestre que vous connaissez bien maintenant. Vous êtes...
Relativement bien, la deuxième fois cette année.
Oui, c'est une sorte de résidence.
3 concerts dans une saison, je suppose, oui. J'ai dirigé cet orchestre dans les années... 70, on dit.
70 en Suisse.
Oui, les années 70.
Oui, c'est quand même un moment maintenant.
Mais même avant, quand c'était 2 orchestres, lyrique et orchestre de chambre.
Ah oui.
Quand j'étais petit. et c'était tout à fait différent.
Ça n'était pas le même orchestre.
Non, pas du tout. Et maintenant, c'est extrêmement capable, extrêmement amical et ouvert et flexible. J'ai besoin de ça avec mes idées curieuses.
On en reparlera tout à l'heure. On va commencer par de la musique. Vous avez choisi, pour commencer, je crois, un compositeur qui vous a accompagné dès vos débuts, c'est Heinrich Schütz.
Oui,
on écoute. Bien. Sir Roger, on écoutait donc un enregistrement avec le Heinrich Schütz Choir que vous dirigiez, que vous avez fondé. Ça date de 1972. Vous aviez l'air attentif. Vous trouvez que les choses ont beaucoup changé ?
Ouf, complètement. Mais c'est très intéressant de l'entendre. Je n'ai pas entendu pendant 40 ans, probablement. Et c'est ravissant. Schütz est un compositeur extraordinaire. J'avais beaucoup de chance de trouver cet homme qui a écrit peut-être 400 morceaux, presque tout de l'Église, très très émouvant, être une grande beauté solennelle. Et c'était merveilleux de découvrir quelque chose complètement nouveau pour nous. C'était inconnu. Il était inconnu en Angleterre,
en Allemagne un petit peu.
Mais aussi c'était imprimé. C'était très facile de trouver et de chanter.
C'est étonnant que vous ayez choisi Schütz comme une espèce de d'emblème.
Oui, oui. Mais c'est très important comme jeune chef d'avoir quelques buts, quelque chose, peut-être plusieurs, fascinant et très important. Puis on peut suivre ce passion et quelque chose peut arriver.
Vous n'aviez pas de modèle non plus pour Schütz, il y avait très peu d'enregistrements.
Non, il fallait inventer un style. Et ça, c'était important parce qu'on a inventé ce style et puis qu'on a continué vers Handel et Bach, etc., un centenaire plus tard. On pouvait réinventer aussi cette musique. Parce qu'à l'époque, Bach et Handel étaient joués, se chantaient comme complètement autrefois.
Ça fait 40 ans, donc les choses ont beaucoup évolué pour vous. Vous avez été un pionnier avec un certain nombre de personnes qu'on va écouter d'ailleurs ce matin. En 40 ans, on défriche, on plante, ça pousse, puis...
Oui, oui, on a... Et parce que j'ai commencé relativement tôt avec Schütz, avec quelque chose du 17e, on pouvait continuer lentement dans la direction d'aujourd'hui, vers aujourd'hui, avec Handel, et puis Bach, et puis Haydn, et puis Mozart, et puis Beethoven, et puis Schumann, et Berlioz, etc. Jusqu'à Mahler et Elgar. Et c'était toujours bien de savoir comment jouer ou chanter le pour continuer à l'autre. À la
comme des fondations.
Oui.
Alors on va écouter un autre personnage de la musique, grand personnage de la musique, qui comme vous a été novateur d'une certaine façon.
Thank you.
Roger Norrington, c'est un de vos confrères, Nikolaus Harnoncourt, qui dirige le Concertus Musicus de Vienne, dans cette merveilleuse symphonie post-horn que vous avez choisie. Qu'est-ce que vous avez choisi là-dedans, Mozart?
Ah, quelque chose de Mozart. Il y a très peu de possibilités que peut-être 600
oui, œuvres, dans Mozart.
Œuvres avec quatre mouvements chaque œuvre. C'est absolument délicieux. Post-horn, sérénade et symphonie. Très typique des années Salzbourg de Mozart avant qu'il arrive à Vienne. Juste on peut choisir. Poum, oui. Comme ça. Poum. Oui. Pourquoi pas ça?
Pourquoi pas ça? Je suis assez fascinée, Roger Norrington, parce que je vous regarde pendant que cette musique défile et vous avez toutes les partitions dans la tête. Et pour l'instant, nous n'avons passé que deux musiques, mais je suis persuadée que vous les avez toutes dans la tête.
Non, absolument pas. Mais le répertoire central, oui, j'ai peut-être 150 symphonies et concertos, etc., dans ma tête. Mais après 60 ans, c'est pas surprenant.
Ah oui, c'est pas beaucoup.
Et c'est plus intéressant, plus amusant de l'avoir dans la tête. On peut concentrer sur l'orchestre et on peut aider l'orchestre plus, spécialement quand on est avec un nouvel orchestre qu'on ne savait pas avant. On peut examiner comment il joue au même moment. Et c'est compliqué, c'est fascinant de laisser la musique venir de derrière vous et de l'approcher vers le public. Et pas toujours les très petits morceaux, mais les grands, le Missa Solemnis de Beethoven, par exemple.
Et la
Rhénane, et toutes les symphonies de Schumann.
Vous la dirigez sans partition?
Oui. Oui. Et toutes les symphonies de Brahms et de Mendelssohn, de Mozart et de Haydn, Tchaïkovski, beaucoup de Mahler, Bruckner, etc. Oui. Mais pas tout, mais tout ce qui est convenant.
Alors, votre choix suivant, c'est Beethoven. Finalement, on reste avec les essentiels. Hein. On commence par Schutz, ensuite on a eu Mozart, maintenant Beethoven.
Oui, bien sûr. Très important pour moi, parce que nous avons donné cette série de symphonies dans les années 85, 6, 7, les 9 symphonies de Beethoven. Complètement nouveau idée, nouvelle sonorité. Sans ce curieux vibration, etc.
Oui.
Tempi exactement comme écrit par Beethoven. Tous les mouvements sont métronomisés par Beethoven. Chaque changement de mouvement, on l'avait pour la plupart ignoré avant. Alors c'est un nouveau Beethoven que nous avons découvert comme ça.
Oui, un Beethoven que moi j'adore parce qu'il est beaucoup plus transparent, beaucoup plus jeune presque, on dirait.
Oui, plus 18e.
Oui.
Ouais.
Alors là, c'est un quatuor que vous avez choisi.
Thank you.
Oui, Roger Norrington, vous avez l'air très ému.
C'est la beauté, c'est la beauté, oui. J'avais choisi ça parce que je jouais beaucoup violon quand j'étais jeune. Pas vraiment professionnel, mais jusqu'à ce moment, et puis j'ai quitté pour être chanteur et chef d'orchestre. Et j'ai beaucoup joué les quatuors de Mozart, Haydn, Bartok, Beethoven, etc. Et j'attends maintenant la possibilité d'écouter tous les quatuors de Beethoven, maintenant que je suis un peu
moi, t'es plus tranquille,
moi,
on va dire.
Affairé, oui. Je suis demi-retraite.
Pas tout à fait encore.
Oui, superbe.
Est-ce que cette musique de quatuor est quelque chose qui inspire le chef d'orchestre, cet équilibre, cette respiration, cette... C'est quand même deux choses.
Pas forcément, c'est inspirant en tout cas, mais naturellement, là on entend toutes les voix absolument égales. Et c'est toujours un défi de faire ça avec un orchestre. Mm-hmm. Toutes les voix, ils sont plusieurs. Et c'est difficile d'être cette clarté et correspondance. Mais c'est toujours merveilleux d'entendre.
Alors c'est le quatuor Artemis qui nous livrait cette version du mouvement lent, oui. Donc du quatuor numéro 11 de Beethoven, le plus 95. Oui. Alors maintenant on passe à Berlioz, et alors Berlioz, ce qu'il y a de merveilleux, ce sont toujours vous, nos amis les Anglais, qui nous a porté Berlioz sur un plateau.
Oui, oui, oui.
Pourquoi Berlioz vous parle? Parce que justement c'est l'homme qui a construit cet orchestre moderne.
Comme tous mes favoris, je suis juste complètement frappé par ces hommes, comme j'étais frappé par Schütz, frappé par un quatuor de Beethoven, une symphonie, et par Mozart naturellement. Et j'ai chanté aussi dans le symphonie Roméo et Juliette, sous le bâton de mon ami Colin Davis.
Vous chantiez et lui dirigeait.
Oui, lui, très 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 loin de maintenant. J'avais peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. Et c'était un coup de foudre, j'étais absolument fasciné par cette musique. Et c'était presque le moment que j'ai décidé, je dois être
chef d'orchestre.
Chef d'orchestre. Il faut faire musique comme ça. j'ai souvent donné le Roméo et Juliette. Et quelquefois, naturellement, les Toyens et tous les autres grands morceaux, l'Enfance du Christ et la Fantastique, naturellement.
Vous l'avez enregistré d'ailleurs, le premier.
Deux fois,
ouais,
oui.
Ouais.
Le premier avec instrument ancien, oui. Et c'était très choquant pour les Français à ce moment-là. 87 peut-être, critique a dit Norrington enregistre le Fantastique. Au secours. Fin.
Ça avait le mérite d'être clair.
Mais un peu plus tard, c'était très populaire.
Mais oui, bien sûr.
Et maintenant, c'est pensé comme référence.
Alors, vous avez choisi l'air. Ah, je vais mourir. C'est joyeux. On y va.
Thank you.
C'était Michel de Jong qui chantait cet air « Ah, je vais mourir », l'air de Didon dans « Les Troyens » d'Hector Berlioz. Sir Colin Davis, votre ami, était à la tête du London Symphony Orchestra, un bel orchestre, oui. Des belles couleurs.
Oui.
C'est un air d'une grande tragédie,
ouais.
Grande tristesse.
Magnifique opéra, magnifique. Peut-être le meilleur opéra de, pour moi de tout le 19e siècle.
On le donne peu souvent.
Oui, c'est un peu long, mais c'est pas plus long que Wagner. Et
ça,
pour moi, même plus intéressant.
C'est vieille histoire.
Plus humain que Wagner. Mm-hmm. Wagner, c'est très préhistorique. Et le Berlioz, c'est très, très direct.
Beaucoup plus moderne, d'une certaine façon.
Oui. Superbe.
Il abandonne déjà les choses du passé. 40, 50 ans de travail comme ça autour de l'interprétation. Sir Roger, vous ne travaillez plus systématiquement sur des orchestres avec des instruments d'époque, la preuve, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, mais est-ce que toute cette recherche, vous l'entendez quand même maintenant sur différents répertoires ?
Oui, je trouve que c'est très important de expérimenter les choses qu'on a découvertes historiquement, avec les orchestres soi-disant normales, c'est relativement facile de donner ces œuvres avec des instruments anciens, parce qu'ils sont là, ils sont évidents. Mais c'est très important qu'il n'y a pas une grande distance entre l'historique et le moderne. Et j'ai trouvé pendant les derniers 20, 30 ans que tous les orchestres sont intéressés et peuvent très très bien jouer dans un style correct pour chaque compositeur, pour chaque répertoire. Et ça sonne toujours mieux, selon moi. Ça sonne très 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 bien d'entendre Tchaïkovski et Wagner et Berlioz et Mahler, etc. avec un style qu'ils ont attendu.
Sans vibrato.
Par exemple, mais beaucoup d'autres choses, oui. pas seulement ça, nombre des musiciens, le sitting à la scène, le phrasé, le coup d'archer, le son, le style, le geste, tout est très important. Et je trouve un orchestre comme ici, le Philharmonique, absolument prêt à jouer dans un style extrêmement satisfaisant.
On va se quitter avec un de vos concitoyens, Edward Elgar.
Elgar,
le grand Elgar.
Ouais.
C'est pas très joyeux non plus, l'élégie.
Elgar, c'est un Espagnol, Elgar.
Oui, c'est ça.
il était mort une semaine avant que j'étais né.
Ah oui,
oui. Au revoir.
C'est un autre de vos confrères, c'est Andrew Davis qui dirigeait ici cette élégie d'Elgar. Merci Sir Roger de nous avoir tenu compagnie ce matin. Et on peut vous retrouver tout à l'heure à 11h dirigeant la Rhénane, magnifique symphonie. Je sais que les musiciens de l'Orchestre Philharmonique sont ravis de travailler avec vous.
Merci bien.
Merci à vous. Carl Böhm dirigeait en 1989 l'Orchestre National de l'ORTF dans un Tristan de Richard Wagner, dont nous écoutions un court extrait, l'air de Tristan, aux 10 zones. Ceci pour vous rappeler que Daniel Legati dirigera l'Orchestre National de France dans Tristan et Isolde au Théâtre des Champs-Élysées du 12 au 24 mai dans une mise en scène de Pierre Audi et que Jonas Kaufmann, mais oui, y chantera les Wesendonck-Lieder le 19 mai. Un petit moment de jazz le matin, une fois n'est pas coutume. Et ce matin, dans le reportage, nous allons suivre deux producteurs de France Musique, Alex Dutille et Yvan Amar, dans l'une des étapes de leur tour de France du jazz. Comment s'installe-t-on? Comment gère-t-on une émission en extérieur? Comment la radio est-elle accueillie? Et pourquoi France Musique promène-t-elle ses micros aux quatre coins de l'Hexagone? Ce sont quelques-unes de ces questions que nous nous sommes posées à Château-Palmaire, un domaine viticole près de Bordeaux, à l'occasion du concert de deux jeunes et talentueux pianistes Thomas Enko et Dan Tepfer, organisé par le Cru Margot. Allez, on pousse ensemble la porte du Grand Chais où les équipes de France Musique se sont installées.
Où est-ce qu'on est ici?
Ici, on est dans le chais des marronniers, le chais où nous mettons les millésimes impairs, puisque nous élevons nos vins pendant presque 2 ans, et que donc il nous faut 2 chais, un pour les millésimes pairs et un pour les millésimes impairs.
C'est bien organisé, tout est nickel, les petits verres rangés dans l'ordre et tout, il fait frais.
Il fait frais parce que nous sommes en fin d'hiver et que le vin a besoin de sentir les saisons, peut-être à tour de entre 12 et 14 degrés. Ce qui est une bonne température pour les premiers mois d'élevage du 2015.
Thomas Duroux, vous êtes à l'origine un peu de cette aventure.
C'est un peu un hasard, c'est-à-dire que après le vin, une de mes autres passions est la musique et le jazz en particulier. Et il y a quelques années, un grand musicien dont le vin est aussi une de ses passions est venu à Palmaire, Jacky Terrasson. Il est venu nous rendre visite et l'idée est venue de trouver un moyen de faire se parler ces deux moyens d'expression que sont le jazz et la vinification de ces raisins de palmaire. Voilà.
On emploie parfois le même vocabulaire pour parler de la musique et du vin.
Oui, il y a quelques mots communs, bien sûr, il y a quelques idées communes. L'inspiration, c'est quelque chose de très important. La connaissance de l'histoire, du passé. Dans le jazz, pour improviser, il faut connaître les standards. Dans le vin, pour interpréter un nouveau millésime, il faut connaître le style de la propriété. Il faut avoir une bonne vision de ce qui a été fait avant et savoir dans quoi piocher pour aller exprimer un terroir, des raisins dans un millésime donné.
Thomas, est-ce que vous pensez que la musique parle au vin? Parce qu'en fait, dans la salle de concert, il y a quand même, je ne sais pas combien, il y a de centaines de fûts. Mmh. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir comme ça une petite soirée, d'être parmi les notes de musique, ça leur fait quelque chose?
J'aime le penser, mais ça n'est qu'une idée qui me donne satisfaction. Voilà.
Mais Château Palmaire, c'est la conviction que le boulot que fait Thomas Duroux, l'œnologue ici, qui est un passionné de jazz, que j'avais rencontré, on avait échangé sur la passion du jazz, et j'ai compris que cet homme qui est un artiste, qui a un talent incroyable pour faire des assemblages avec ce qui vient des parcelles des différentes zones de sa propriété, il fait un métier qui est un métier de création. On reconnaît aujourd'hui très largement le talent créatif des cuisiniers. Mais je dois dire que sur les œnologues, sur des terroirs aussi complexes que le Bordelais, mais on pourrait dire la même chose dans d'autres régions, c'est un vrai travail de création. Et je sais que l'écoute et la passion du jazz est importante pour lui dans sa façon de travailler. Je connais assez de musiciens de jazz pour savoir que c'est souvent des épicuriens et que quand les cinq sens sont mis en branle ensemble, il se passe quelque chose. Pour avoir vu ici déjà Yaron Herman et Michel Portal ensemble imaginer des musiques après avoir compris comment on créait du vin, j'ai eu envie de revenir pour ce duo de Thomas Enko et Dan Tepfer.
Et vous avez demandé à votre acolyte, Yvan Amar, de vous accompagner dans cette aventure, parce que c'est vrai, c'est assez complémentaire les deux émissions.
Les émissions sont complémentaires, la musique se partage, le vin se partage, en l'occurrence. Moi, j'aurais du mal à partir tout seul. J'aime bien faire la nounou d'Yvan qui fait ma nounou aussi.
Il y a quoi? Il y a une centaine de personnes qui assistent au concert?
Oui, c'est ça, une petite centaine de personnes, puisque du fait de l'organisation du chai et de la configuration, on est entouré de barriques et on ne peut évidemment pas déménager les barriques qui sont en cours d'élevage. Donc on a vraiment cette configuration très intimiste où le public vit le moment avec les artistes.
C'est une grande installation pour vous. Vous faites ça combien de fois? Une fois par an?
Une fois par an, oui. Et puis c'est pas notre métier, donc en fait ça suffit. Mais non, mais c'est super.
Annabelle Grelier.
Et c'est notre petite parenthèse enchantée à nous. Ça nous fait du bien.
Vous, personnellement, vous trouvez que la musique et le vin font bon ménage?
Ils font particulièrement bon ménage parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice chez vous, mais le fait d'ouvrir une bonne bouteille quand on écoute un joli morceau de musique, tout de suite en fait on sent beaucoup mieux et on amorce.
Et on ne sait pas quel est le responsable. Annabelle, qu'est-ce que la présence de la radio apporte ?
En fait, comme on l'a vu, c'est un événement très intime. C'est génial pour les invités. En même temps, on sait que, effectivement, ça prive beaucoup de monde qui aimerait assister au concert de venir. Et le fait de pouvoir le retransmettre sur France Musique, ça permet justement à tout le monde de pouvoir l'écouter. C'est une grande joie pour nous, parce qu'on a vraiment envie de faire partager ce moment. Toutes ces émotions, toutes ces expériences que nous avons vécues ensemble, c'est ce qu'ils seront invités à retransmettre tout à l'heure pendant le concert. Et ça, c'est assez magique, ouais.
Il y a un échange.
Ouais. Oui.
Donc ça, pour l'instant, ça c'est bon. Ensuite, Infotomanco,
Il me le faut.
Fabien Fleura est réalisateur.
Après Dan, Il me le faut.
Oui, il va être surpris de s'entendre d'ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'il ait vu ce disque encore.
D'accord. Après, on a notre petite signature.
Oui.
Le Bill, je l'ai.
Tu l'as, c'est pas si sublime ça.
Ok. Après, notre jazz au trésor. Tout ça, toute cette séquence G. Après, l'agenda.
L'idée comme ça de ces déplacements, de ce jazz régional que vous avez organisé avec France Musique et Yvan Amar.
Tour de France. Open Jazz en particulier est une émission, un magazine sur l'actualité. Moi j'ai envie de refléter ce qui se passe réellement partout. Le grand défaut de beaucoup de médias nationaux, c'est d'être des médias parisiens. La France du jazz est une réalité depuis longtemps. Il y a des associations, des bénévoles qui font des boulots formidables depuis des années et des années un peu partout. Moi, j'ai envie de participer à la reconnaissance de leur travail. Les musiciens leur sont très reconnaissants. C'est des relations humaines à chaque fois qui font que les musiciens, après, y reviennent avec plaisir. Ça fidélise un public, etc. Je crois qu'avec Yvan Amar pour le Jazz Club ou avec Jérôme Badini pour les Mercredis du Jazz, on se déplace souvent ensemble pour faire d'une pierre deux coups ou trois, faire écouter la musique qui s'y donne, mais aussi faire parler et les gens qui retroussent leurs manches en longueur d'année. C'est comme les musiciens qui n'oublient pas de présenter les techniciens du spectacle grâce à qui tout s'est bien passé. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, la situation du jazz en France doit beaucoup à ces initiatives en région. Le jazz en France ne serait pas aussi dynamique s'il n'y avait que les clubs de jazz et les salles de jazz parisiennes.
Et puis c'est la rencontre avec des publics, j'imagine, Yvan Amar, parce que vous le dites souvent, le public est enthousiaste et on l'entend à l'antenne.
Non seulement il est enthousiaste, mais je crois qu'il est content d'être là pour assister à un événement. Ça compte, c'est pas du narcissisme de notre part de dire ça, on a vu à quel point ça comptait pour les gens qui viennent écouter de voir que la radio est là. Parce que ce sont des amateurs de jazz, des gens qui écoutent la musique, mais ce sont des auditeurs de radio et de France Musique qui, selon leur âge, écoutent France Musique depuis 5 ans ou 10 ans ou parfois 30 ou 40 d'ailleurs, parce que la pyramide des âges est assez haute. Et alors ils arrivent en disant « Ah, mais j'écoute telle émission, j'écoute telle voix depuis je ne sais pas combien de temps, et mes enfants l'écoutent maintenant, etc. Et je vous vois. » Et ça amène quelque chose. Et non seulement je vous vois, mais je serai dedans, on va m'entendre applaudir. C'est un plaisir de s'entendre applaudir à un concert. Moi, ça m'est arrivé souvent avec des disques en me disant « Ah, ce concert-là, parmi tous ces gens qui sont enthousiastes, il y a mes deux petites mains qui sont là, qui applaudissent parmi les autres parce que j'y étais, je me souviens la place, je me souviens le siège, je me souviens l'émotion que ça a été et je le réécoute. » Pour les gens qui viennent assister à un concert qui est retransmis à la radio, je crois qu'il y a cette émotion supplémentaire.
Le vin en premier et la musique derrière.
Ouais, merci, ça nous fait vraiment plaisir. Pour nous, c'était vraiment une expérience, quoi. C'était la découverte.
Et on voit le plaisir que vous prenez, et c'est incroyable.
Et puis c'est toujours sur le fil, quoi. Ouais. On doit avoir les oreilles en radar.
Mais ça marche bien, hein.
Ouais, ça marche super. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir.
Ouais. Moi aussi. Heureusement qu'on s'entendait vraiment bien, qu'on a pris le temps de faire ça.
C'est... Le son, les petits retours qu'on avait sur scène.
Il faut tout démonter maintenant, ouais. Tout débrancher.
Julien Bourdet est l'un des preneurs de son.
Faire attention à rien casser, à rien faire tomber et à rien oublier surtout.
Merci à l'équipe de France Musique qui a accepté de répondre à nos questions et à toute l'équipe de Château Palmer pour son accueil. Et rendez-vous en 2017 pour goûter et écouter le millésime suivant. Et je vous rappelle que les deux émissions sont à la réécoute sur le site de France Musique, francemusique.fr. La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors Marie, une chronique ce matin dédiée à la jeune pianiste Natalia Milstein qui sera en concert avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France vendredi 29 avril prochain à l'auditorium de la Maison de la Radio.
Et on lit un peu partout, ici et là, et même d'ailleurs sur le site de la Maison de la Radio, que Natalia Milstein est la petite nièce du célèbre violoniste Nathan Milstein. Eh bien non, c'est faux.
Ah, it's a scoop.
Eh oui, c'est un argument de communication mensonger. Mais surtout, ça n'enlève rien à son talent. Ce qui est amusant par contre dans l'invention de cette filiation, c'est qu'elle vient rencontrer l'histoire musicale même de Natalia Milstein, qui est une histoire de famille. Elle m'a raconté tout cela en préparant cette chronique. Natalia Milstein a 20 ans, elle est française, d'origine russe. Ses parents ont quitté la Russie l'année du putsch de Moscou en 1991. C'est avec son père, le pianiste Sergueï Milstein, qu'elle a appris le piano. Elle a travaillé avec lui de ses 4 ans jusqu'à ses 18 ans. Et elle dit avoir tout appris avec lui, que cela reposait avant tout sur leur complicité, sur ce goût qu'elle avait à entendre son père travailler, à entendre son père en concert. C'était le pianiste le plus présent dans sa vie. Et lui-même, d'ailleurs, avait appris le piano au conservatoire Tchaïkovski de Moscou avec son propre père, Yakov Milstein.
L'étude opus 25, numéro 7, de Chopin par Natalia Milstein au piano.
Natalia Milstein a changé de professeur il y a 3 ans. Son père a cédé la place à un autre grand nom, Nelson Görner. L'art de l'enseignement a un haut niveau et quand il est dispensé par des gens intelligents, c'est toujours passionnant. On pourrait tous en prendre de la graine dans nos relations au quotidien. Natalia Milstein décrit Nelson Görner comme un professeur très exigeant mais sans ingérence. Il ne juge pas une interprétation mais il donne à ses élèves les moyens d'être libres. C'est au fond un respect infini de la personnalité de ses élèves.
Filiation spirituelle, alors avec Nelson Görner, filiation familiale, son père, son grand-père.
Sa mère, alto solo à l'Opéra de Lyon, Natalia Tolstaya, et sa sœur, Maria, violoniste, avec laquelle elle fait de la sonate.
Thank you.
C'est extrait de la sonate pour violon et piano de Prokofiev, sonate numéro 1, opus 80. C'est le troisième mouvement. Natalia Milstein a remporté l'année dernière le premier prix au concours international de piano de Dublin. C'est d'ailleurs la première femme à avoir remporté ce concours. Et depuis, elle ne cesse de faire ses débuts dans les salles les plus prestigieuses. Elle était au Carnegie Hall il y a un mois, au Gewandhaus de Leipzig peu avant. Et elle sera à l'auditorium de la Maison de la Radio vendredi prochain. On l'écoute encore dans Prokofiev, seule cette fois-ci. Et c'est un extrait du concours de Dublin, justement le début des épreuves, puisque c'est le premier tour.
Le deuxième mouvement de la quatrième sonate opus 29 de Serge Prokofiev par Natalia Milstein au piano.
Vendredi 29 avril à 20h, Natalia Milstein interprétera le premier concerto de Chopin avec l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Marcelo Leninger.
Ce sera en direct sur France Musique.
Oui, et puis restez à l'écoute puisqu'elle est aussi l'invitée de Philippe Cassard tout à l'heure dans Portrait de famille.
Merci Marie Fauché, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine Dominique.
Agenda. Rejoignez-nous mardi pour l'enregistrement de l'émission Les Mardis de la musique ancienne. Édouard Forêt-Colfuti y recevra deux ensembles remarquables, le banquet céleste que dirige le contre-ténor Damien Guillon dans un programme Handel, Bach, Vivaldi et Purcell. Puis l'ensemble Lyriade, dirigé cette fois-ci par le ténor Cyril Ovitti, pour entendre Morel, Charpentier et Lambert, de bien belles voix au studio 106 de 20h à 22h. Jeudi 28 avril, la tribune de critique de disques qu'anime Jérémy Rousseau débattra avec vous, si vous venez, des intermédiaires opus 117 de Johannes Brahms. Vous êtes attendus à partir de 19h au studio 109. Et je vous rappelle que pendant toute la durée des vacances parisiennes, Radio France invite les plus jeunes à venir s'essayer au métier de la radio. Construire sa playlist, s'essayer à l'information. Voici quelques-uns des sujets que proposent les ateliers de Radio France pour les plus jeunes. Inscription sur le site maisondelaradio.com.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité.
Veuillez écouter notre commentaire de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Ça vous va très bien la chapka ce matin.
Et vous la zibeline formidable.
Nous sommes dans un roman russe.
Exactement. Et nous allons nous promener dans la Troïka qui nous emmènera vers la fuite. Puisque c'est un petit peu de ça dont il est question aujourd'hui. C'est
des
troubles russes du début du XXe siècle qui ont fait exploser l'ancien empire. Vous le savez, on n'est pas là pour refaire l'histoire, mais qui, dans cette explosion, comme dans toute explosion solaire, nous ont permis de récupérer quelques pépites magnifiques qui sont passées à l'Occident. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au destin de trois grands. Trois seulement, je suis bien d'accord, il y en a des myriades, mais c'est surtout ceux-là, parce qu'ils ont fait aussi une carrière extraordinaire au disque. Je veux parler de Yasha Eifetz, l'immense violoniste, Alexandre Brailovski, qui s'appelait Alexander Brailovski, et Vladimir Horowitz.
Magnifique.
Alors tous sont nés entre 1896 et 1903 et ils sont venus par des chemins détournés entre 1917 et la toute fin des années 20, le milieu des années 20. Et je vous propose de retrouver d'abord Yasha Eifetz. Yasha Eifetz a été détecté très tôt par son professeur de violon qui n'était autre que son père, qui dès 2 ans lui a mis les doigts sur un instrument et s'est rendu compte qu'il y avait un miracle. Et on raconte que lorsqu'il est arrivé à Carnegie Hall à New York, tous les violonistes présents dans la salle ont dit « Il fait chaud, non ?» Et Léopold Godowski a dit « Non, pas pour les pianistes. » Alors retrouvons-le dans le Rondo Capriccioso de Camille Saint-Saëns, qu'il a enregistré à Londres en 1935 avec le Philharmonique de Londres sous la baguette de John Barbirolli qui deviendra Sir John Barbirolli.
Thank you.
c'est quand même un
violon... On a envie de se soulever, hein, de dire bravo.
Violon diabolique, incroyablement juste, Yascha Arifetz, en 1935. C'est un disque que vous avez...
C'est un disque, je suis parti de l'original, donc c'est de dire aussi que la qualité de la gravure à l'époque était fabuleuse.
C'est quoi, c'est un 78 tours, Jean-Yves ?
C'est un 78 tours américain, pour être très précis. Les pressages français sont souvent de moins bonne qualité. Parce que
un disque
avait...
Victor, London.
Oui, exactement, enregistré à Londres, c'est très beau. Alors on continue notre exploration dans la comète désintégrée russe, si l'on veut bien, pour nous intéresser à Alexandre Brailovsky. Alors Alexandre Brailovsky, lui, vient de Kiev. Il connaît exactement le même destin que les autres, c'est-à-dire qu'il quitte la Russie. Mais excusez du peu, il a eu, alors Yascha Arifetz avait eu Leopold Auer comme professeur. Là, il a eu Leschetizky dans la constellation de Liszt aussi, Buzzoni, quand même pas mal, et puis Francis Planté, qui a perfectionné son jeu. On a fait un jeu très à la française. D'ailleurs, il choisira la nationalité française. Et vous savez, avec Francis Planté, c'est toute la tradition du piano du 19e que l'on a. Eh bien, je vous propose de retrouver justement notre cher Brailovsky dans une pièce de Frédéric Chopin, un de ses tout premiers disques qu'il a enregistré en 1928 et qui, curieusement, a été réédité en 1950. C'est un 78 tours encore une fois, et je ne sais pas pourquoi, ils ont rajouté un petit peu d'écho, ce qui fait un peu un effet artificiel. Thank you.
magnifique Alexandre Brailovski.
Hélas, un peu oublié.
Hélas, un peu oublié, qui a dû certainement enregistrer de nombreuses fois pour la radio. Puisque
qui, a beaucoup été diffusé, ouais. Qui est décédé dans les années, au milieu des années 70, qui était un grand monsieur, qui est décédé lors d'un voyage aux États-Unis, qui a laissé un grand nombre de disques.
Donc c'était la valse en do dièse mineur, opus 75 de Frédéric Chopin. Et c'est un disque Polydor Berlin 1928.
Alors le dernier, le monstre sacré, c'est Vladimir Horowitz, oui. Qui lui connaîtra un destin planétaire, on peut le dire. Et lorsqu'il arrive tout jeune, il est né en 1903, pareil vers Kiev, un peu comme Brailovski, il est immédiatement capté par les salles de concert et par les maisons d'enregistrement. Et en 1928, on lui propose de graver ses premiers disques. Et de cette session, j'ai trouvé un disque assez extravagant et qui répond assez bien à notre thème qu'on aborde au fil de nos matinales depuis déjà pas mal de temps, c'est la qualité de l'enregistrement. Vous allez l'entendre, c'est absolument hallucinant. Le pianiste est extraordinaire. Le piano n'est pas du tout à la hauteur. Il est mal accordé. Et en plus, la qualité de la gravure n'est pas formidable. Donc c'est une curiosité. Le plus grand des pianistes du XXe siècle, avec Rubinstein vraisemblablement, eh bien d'un seul coup, se plie à un jeu étrange pour séduire la maison de disques et pour séduire éventuellement les amateurs. Il en est réduit à faire une chose bizarre, pour ne pas dire médiocre.
Alors on l'entend dans Debussy.
Debussy, la sérénade de la poupée des Children's Corner. Ce n'est pas du tout lui qui est en question, c'est plutôt le studio.
Nous en tombe. Ce pauvre Horowitz enfermé dans un bocal.
Oui, le studio est tout petit, on le sent bien autour de lui. La prise de son est lointaine.
L'accord du piano n'existe pas.
C'est un piano aléatoire.
Oui.
Et c'est vrai que ça, du coup, ça donne une espèce de nostalgie bizarre, alors que c'est un jeune homme. Il a 25 ans.
Oui, il a 25 ans. C'est ce qu'on se disait, Jean-Yves. C'est peut-être aussi le début de son arrivée en Europe. Il n'a peut-être pas tout à fait le choix.
Voilà, il avait fait une belle séance d'enregistrement. Je pense qu'il manquait 3 minutes pour finir la dernière phase du disque. Avant, il a gravé du Buzzoni, du Liszt, le thème de Paganini. Et je pense que le piano n'a pas résisté. On lui dit, oh ben mon petit gars, vas-y. Et puis le petit gars, ben, il s'est exécuté.
En tout cas, merci pour ce voyage dans une Russie plutôt européenne.
Complètement européanisée. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Et voici notre rubrique « Parlez-moi de musique » dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé Evelyne Lagarde.
Thank you.
Ce fut comme un rite de passage. La nuit sur la petite route traversant la forêt, nous franchîmes la frontière entre le monde réel et le monde enchanté. Roulant au pas sur la pente raide, nous rencontrâmes dans le faisceau de nos phares une biche indolente qui semblait trouver normal que nous nous arrêtions pour elle. Elle traversa avec grâce et indifférence. Plus loin, un lièvre, était-ce celui d'Alice, avec le même naturel, reçut l'hommage de notre immobilité et zébra d'un grand bond la lueur de nos phares avant de s'enfoncer dans les ténèbres. Au sommet de la colline, le ciel n'était qu'un tapis de constellations. Depuis la rencontre avec la biche, nous n'avions pas échangé un mot. Pour dire quoi ? La communion avec la beauté du monde nous tenait lieu de langage. Le lendemain, l'abbaye de Boscodon nous apparut dans la simplicité rustique de ses pierres blondes. Passant du soleil à l'ombre, nous pénétrâmes dans l'église. La première suite de Bach nous accueillit. Un violoncelliste au milieu du chœur jouait pour lui-même. Les rares visiteurs dont nous étions à cette heure matinale profitaient émerveillés de cette inattendue perfection. L'union sans défaut d'un moment, d'un lieu, d'une œuvre. Sous les vieilles voûtes, la musique était comme une source merveilleuse. Le musicien jouait, s'arrêtait, reprenait, rejouait le prélude entre la courante et la sarabande. Quand il fut arrivé à ce qui pour lui devait être la fin, il rangea son instrument, remit sa chaise dans la nef et sortit. Nous sommes restés un long moment silencieux, subjugués. Il fallut reprendre la route en plein jour cette fois. Un écureuil bondit devant nous pour traverser. Nous savions que c'était la fin du sortilège. Merci Jean-Sébastien. Pour illustrer le souvenir musical d'Evelyne Lagarde, nous avons écouté comme elle, mais avec moins de magie peut-être, la première suite de Jean-Sébastien Bach dans l'interprétation de Mstislav Rostropovitch. Merci à vous tous pour vos textes nombreux et toujours émouvants. Je me fais toujours une joie de vous lire à l'antenne. Question de cœur avec Sophie Janin. Bonjour Sophie Janin.
Bonjour Dominique.
Chère Sophie, nous poursuivons notre petit collectage de compositeurs qui ont écrit pour chœur. Nous avons parlé des musiciens français, des Ravel et Debussy. Nous avons évoqué Brahms la semaine dernière. Aujourd'hui, vous souhaitiez parler de Mahler, mais surtout dans la production de ses symphonies avec chœur.
Oui, tout d'abord parce que les symphonies de Mahler, c'est un petit peu, je pense que c'est pour beaucoup de chefs d'orchestre symphonique, c'est un petit peu l'épopée de ce qu'on arrive à diriger dans sa vie, c'est-à-dire que on traverse justement toute la vie et au-delà de notre vie terrestre dans une symphonie de Mahler. Et en plus, c'est vraiment en plein milieu des missions que nous avons ici à Radio France, c'est-à-dire que l'existence même du chœur de Radio France, elle est vraiment là très très poignante, on va dire, quand on entend une deuxième symphonie, une troisième ou une huitième. Et il faut dire aussi que dans la troisième et la huitième, il y a également l'appel à la maîtrise. Donc, c'est vrai que c'est des pièces que nous visitons souvent et à chaque fois, c'est une expérience éblouissante.
Alors, l'expérience éblouissante, elle tient à l'équilibre entre l'orchestre, les chœurs, la façon dont Mahler écrit pour la voix.
Oui, partiellement, mais c'est, je pense, encore au-delà de ça. Vous savez, le contexte et le ton dans une symphonie de Mahler est d'une profondeur,
d'une intensité,
intensité qui est inévitable. C'est-à-dire que moi, j'ai encore du mal à écouter la deuxième symphonie de Mahler sans que j'ai des larmes aux yeux. Vraiment, c'est une œuvre qui me saisit, et je pense pas seulement moi, mais je pense tout le monde. Et chacun dans son expérience, dans sa palette d'expression. Dans la deuxième symphonie, l'arrivée du chœur est un des moments les plus magiques dans le répertoire choral. Il faut savoir donc que le chœur reste en principe sur le plateau pendant toute la symphonie est jouée. Ils arrivent seulement à la fin pour chanter la résurrection, le Auferstehen, qui commence sur une nuance en dessous d'un pianissimo, avec des si bémols graves quand même chantés dans les basses. Pas tous les chœurs du monde ont ce genre de notes. Et je peux vous dire que quand on travaille cette œuvre-là avec le chœur de Radio France et on entend cette nuance absolument, ça doit être presque inaudible.
Oui, c'est vraiment une résurrection, quoi. On part de rien et on retourne à la vie.
Et il y a cette montée avec cette texture qui est extrêmement riche, libre pour l'orchestre et pour le chœur. Donc, on escalade finalement tous ensemble. Et puis, en plus qu'il y a, c'est cette notion d'humanité et de pardon. C'est-à-dire que le cœur se réjouit. Dans la troisième, le cœur arrive comme une lumière des anges, une énergie soudaine. Donc ça enchaîne après un mouvement lent et tout de suite, on entend les enfants qui chantent des sons de cloches, doublés par des cloches tubulaires. Et on a ce chant extrêmement réjouissant aussi et chez le cœur de femmes qui parle de Pierre et du Christ. Et qu'il y a aussi cette notion de consolation dedans et de se réjouir et de louer le Seigneur. Et dans le huitième, on est sur des hymnes. Donc là, vous savez, le huitième, comme on dit, la symphonie des mille, on est là dans des effectifs absolument extraordinaires. Et là, pour moi, non seulement il y a le savoir-faire de l'écriture, cette richesse où justement ces forces-là ne sont pas excessives, ils sont déployés d'une façon avec une expertise absolue. Et je peux vous dire que même l'impact sonore est quelque chose qui est absolument merveilleux de vivre en direct dans une salle de concert.
Alors Sophie Jeannin, finalement, chanter du Mahler, c'est une expérience spirituelle presque pour chacun des chanteurs.
Je pense que ça peut l'être. Et chacun, comment on peut vivre la spiritualité, peu importe la façon dont on la vit. Mais cette musique nous prend vraiment le cœur. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. C'est inévitable.
Pour illustrer Question de cœur, aujourd'hui, nous écoutions un extrait du quatrième mouvement de la troisième symphonie de Gustav Mahler, dans l'interprétation de l'orchestre philharmonique de Los Angeles que dirige Esa-Pekka Salonen. La troisième symphonie de Gustav Mahler, eh bien, vous pourrez l'entendre par l'orchestre philharmonique de Radio France, le chœur et la maîtrise de Radio France, tous dirigés par Mikko Franck, le jeudi 26 mai, dans le cadre du Festival de Saint-Denis. Ce sera évidemment dans la Basilique. Et enfin, samedi prochain à 11h à l'Auditorium, c'est l'ami Philippe Cassard qui sera l'invité de l'Orchestre Philharmonique de Radio France à 20h. Il jouera le concerto pour piano numéro 22 de Mozart. Au programme également, sous la baguette de notre invité de ce matin, Sir Roger Norrington, la symphonie numéro 1 de Félix Mendelssohn. Pour gagner des places pour ce concert, il vous suffit de vous inscrire au plus vite sur le site de l'émission Fabrication Maison sur francemusique.fr. Voilà, il est temps de se quitter. Merci à Pauline Boisaubert, à Philippe Petit, à Emmanuel Dupuis et à Benoît Latil qui était à mes côtés. Et à très vite, à lundi par exemple.